Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis content encore, comme d'habitude, d'être avec vous, de retrouver des têtes connues, quelques têtes nouvelles aussi. Content de retrouver Thomas, qui était, qui était avec nous la semaine dernière. Il me dit, on se voit dimanche. Bah, pourquoi non? Tu viens? Non, c'est toi qui viens dans mon église. Ah, super! Donc voilà, donc Thomas était avec nous l'année dernière. Et donc Priscilla vous salue bien. Donc cet après-midi, Eliana avait un programme, donc Priscilla a dû l'amener. Et voilà, elles auraient bien voulu venir, puisque quand mes filles viennent, elles ont aussi plein de copines. donc voilà, donc on vous salue bien chaleureusement. On est content d'être avec vous. Je suis content d'être avec vous pour cette période de l'Avent, où il y a cette préparation de Noël, comme Samuel nous a dit. Et moi, je fais partie des gens qui achètent le cadeau des gens le 23. Le 23 ou le 22. Voire le 24, si c'est ouvert encore. Donc voilà, c'était sûr qu'aujourd'hui, je pourrais pas. Mais voilà, c'est peut-être cette effervescence. Et nos églises, nous aussi à l'année, on a décidé, donc comme ici aussi, de se préparer à cette arrivée, de cet accueil de notre Sauveur. Et vous avez choisi donc le prologue de Jean. Donc cette introduction de l'évangile de Jean, où Jean va avoir vraiment ce 18 versets costauds, très profonds, où il va présenter une introduction à ce qu'il veut proclamer finalement dans son évangile. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Jean va parler dans son évangile. Donc vous avez vu la semaine dernière que finalement la parole, qui était la parole préexistante. Et on va le voir aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 17 où Jésus va parler justement qu'il est cette parole, qu'il y avait la vie dans cette parole, qu'en Jésus il y avait la vie. Et évidemment Jésus, on connaît cette phrase où il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc vous avez vu cela. Vous avez introduit aussi la notion de la lumière en Jean chapitre 1 verset 4. Donc qu'en cette vie il y avait la lumière. Et Jésus dira « Je suis la lumière du monde ». Et vous avez introduit aussi la notion du fait que la lumière a été rejetée, les ténèbres ne l'ont pas reçue et ne l'ont pas entendue. On va continuer justement cet élan avec ces quelques versets qui nous ont été partagés et on va voir quatre choses dedans. La première, c'est qu'il y avait un témoin fidèle de la lumière. Deuxièmement, on va voir ensemble que cette lumière, elle est pour toute l'humanité, pour tout le monde. La troisièmement, c'est que la lumière a été rejetée. Et enfin, la lumière, elle est puissante pour donner la vie et transformer les gens. Donc voilà un petit peu les quatre points qu'on va voir ensemble cet après-midi. Et donc je reprends juste ce verset. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. On comprend que c'est Jean le Baptiste, hein, vous connaissez l'histoire, ce n'est pas Jean qui a écrit l'évangile, mais Jean le Baptiste, Jean Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient en lui. Il n'était pas à la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et là, on a un bon exemple de ce qu'est un témoin. Déjà, c'est un homme ici, il est précisé. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce contraste où on voit la lumière, on voit le logos, on voit la parole, on voit préexistence, créateur, Dieu. En fait, on voit vraiment que Jean l'évangéliste est en train d'élever Jésus-Christ à son niveau divin, en train de nous rappeler qui est cet homme qui est venu s'incarner en Jésus-Christ. Et là, il dit, il y a un homme, un humain, qui est Jean, qui n'est pas la lumière, qui est ce témoin, venu apporter la parole. Et c'est intéressant parce que c'est pas n'importe quel homme quand même. C'est un homme, c'est vrai, mais c'est pas n'importe quel homme. Alors Jean le Baptiste, il est dit que, si on prend par exemple Luc chapitre 7 versets 26 à 28, voilà comment Jésus va parler de lui. « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète ?» Oui, je vous le dis. Donc Jean était un prophète, à la nature de ces prophètes de l'Ancien Testament, ces prophètes, vous savez, qui débarquaient dans les villes et qui proclamaient la parole de Dieu, qui encourageaient à la repentance, qui encourageaient au changement, qui ramenaient les gens à l'Éternel et qui disaient « Mais si vous continuez, il y aura le jugement de l'Éternel. » Donc ça, ces grands prophètes qu'on a connus, Ésaïe, Jérémie, tous ces prophètes que l'on connaît dans l'Ancien Testament, eh bien, Jean-Baptiste est de cette même trempe. Et même, il va dire, Et on va voir que dans le ministère de Jean, il va avoir cette attitude, il va avoir ce témoignage fort de venir et de proclamer, d'encourager les gens à la repentance et de revenir à l'Éternel. Donc, Jean le Baptiste, ce témoin, est un prophète. Ça, là, Jésus le confirme, il dit oui. Et c'est intéressant parce qu'il va dire, il est plus qu'un prophète. Luc, chapitre 16, verset 26. Non seulement c'est celui duquel à propos il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin », ça veut dire que pour Jean, ce témoin, il est particulier parce qu'en fait, il y a eu une prophétie sur lui. Il y a eu une prophétie sur lui. Sa venue a été annoncée. Et vous savez, pour ceux qui connaissent cette histoire, que non seulement il y a cette prophétie dans l'Ancien Testament, où on annonce la venue de Jean, de celui qui va préparer le chemin du Seigneur dans Ésaïe, mais aussi, quand il est arrivé, sa naissance était particulièrement miraculeuse. Ses parents étaient déjà très âgés, il ne pouvait plus avoir d'enfant à cet âge-là, et Élisabeth est quand même tombée enceinte, et un ange est apparu à son père, Zacharie, pour lui annoncer qu'il allait avoir un fils, et c'est l'ange qui donne à Zacharie le nom de son enfant. Donc, un homme particulier, n'est-ce pas ? Un homme spécial, ce Jean, un homme particulier. C'est pour ça que Jésus va dire, il est plus qu'un prophète. Ça, c'est la première raison. Il va même aller plus loin, Jésus, quand il va parler de cet ami Jean. Il va dire, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean. Waouh, c'est fort ça. Il va utiliser aussi aucun prophète, on pourrait comprendre aucun prophète ou aucune personne peut-être. Parce que c'est vrai que de toute façon, dans la parole de Dieu, vous le voyez, les prophètes, c'était des hommes qui avaient une proximité avec Dieu, une proximité avec les derniers. Donc, c'était des hommes proches de Dieu. Mais il dit, aucun de ces hommes n'était plus grand que Jean. Et pourquoi alors? Pourquoi? Eh bien, ce texte nous le dit. Et tout le début de l'évangile de Jean aussi va nous le montrer. Parce que Jean, il avait un message glorieux. Les prophètes avaient tous un message formidable. Mais Jean, il avait un message particulier. Il était en train de passer le relais avec le Messie lui-même. Il faisait la transition. Il était le témoin direct de ce qui allait se passer juste après lui. Les prophètes, ils prophétisaient des choses partiellement de ce qui allait arriver dans des siècles pour certains. Mais là, Jean, il est en train d'annoncer de ce qui est arrivé. Et quand Jean parlait, en fait, ce qui arrivait était déjà derrière Jean. Juste en train d'arriver après Jean. Il y a vraiment eu cette transition entre Jean le prophète et la lumière, la vie, la parole qui était Jésus-Christ. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Voilà le contenu du message. Le contenu du message, je suis venu pour rendre témoignage à la personne de Jésus-Christ. Il arrive, il est là, c'est lui. Et juste en dessous, il dira des choses très très fortes. Il dira qu'il n'est même pas digne de délier ses souliers, que c'est lui qui va baptiser d'esprit et de feu. C'est l'agneau du monde qui ôte le péché du monde. Jean aura l'opportunité, l'occasion de voir la lumière et de dire, regardez, c'est lui-là. Regardez, prenez-le, c'est lui que vous devez suivre. Jean était ce témoin fidèle et puissant qui est venu rendre témoignage à la lumière. Et nous sommes heureux du ministère de Jean, qui est d'ailleurs aussi reconnu comme étant avait l'esprit d'Élie. Jésus lui-même le reconnaîtra en disant que Élie avait été annoncé de revenir dans Israël. Et en fait, c'est l'esprit d'Élie que Jean a eu, qui l'a conduit aussi. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est que Jésus va continuer son discours sur ce Jean. Et il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, Luc 7, verset 28, « Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. » Interpellant, ça. Je viens de vous dire que Jean, c'est quelqu'un d'impressionnant. Jean, c'est quelqu'un de merveilleux. Jean, c'est quelqu'un qui est grand dans tous les prophètes, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Parce que Jean, il annonce quelque chose que Jésus va faire. Mais à partir du moment où Jésus va arriver, cette lumière va arriver, que cette lumière va éclairer l'humanité, celles et ceux qui vont bénéficier de cette lumière vont être transformés et vont vivre cette union et cette communion avec la lumière que Jean n'avait pas encore vécu pleinement parce que Jésus était en train de commencer son ministère. Mais tous ceux et toutes celles qui vont arriver après, tous et toutes celles qui vont être appelées enfants de Dieu, ils vont vivre cette communion. Ils vont expérimenter ce que Jean lui-même n'avait pas encore pleinement expérimenté. Ils vont vivre le pardon des péchés. Ils vont vivre la plénitude de l'Esprit. Ils vont vivre la compréhension de qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ils vont être habités de Jésus lui-même. Et alors Jésus, et ils vont être désormais des gens qui vont pointer vers celui qui est la lumière, qui est déjà venue. Et en fait, c'est vous et moi qui sommes ces témoins à la suite de Jean. Et c'est un encouragement pour nous. Nous aussi, nous sommes ces témoins, comme Jean, qui sommes venus, et l'évangéliste Jean, celui qui a écrit donc cet évangile, en fait, l'objectif de son évangile, c'est quoi? C'est cela. Il le dira à la fin, au chapitre 20, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. » Donc, l'évangile de Jean lui-même est un témoignage vers cette lumière, un témoignage vers Jésus-Christ. Et je crois que l'évangéliste Jean aussi nous encourage, nous-mêmes qui croyons, à être ses témoins, à garder cette vision que nous sommes aussi des témoins de la lumière et que finalement nous sommes aussi importants. Qu'est-ce qui a rendu Jean important? Est-ce que c'était ses qualités professionnelles? Est-ce que c'était sa façon de s'habiller? Je ne sais pas si vous saviez comment il s'habillait. Il avait été habillé par Chanel. En peau de bête, hein. c'est pas très stylé actuellement, mais à l'époque non plus, hein. C'était pas très... Donc c'était pas ça qui attirait, c'est pas ça qui faisait de Jean un grand homme. Est-ce que Jean a fait des miracles? Pas particulièrement. Mais qu'est-ce qui a fait de Jean sa grandeur? C'est le message qu'il portait, le message grandiose qu'il représentait. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes et des femmes importants? C'est le message que nous portions. Et donc je nous encourage à nous rappeler, frères et sœurs, là où vous êtes. Vous êtes important parce que vous avez un message où vous pouvez être ces témoins fidèles du Seigneur Jésus. Et pas un témoin fidèle du bien-être que la foi chrétienne amène. Parce que souvent, c'est vrai qu'on veut encourager les gens à dire « Ouais, si tu viens à Jésus, tu vas voir, il va s'occuper de toi et tout. » Mais avant tout, en fait, nous sommes témoins avant tout de Jésus lui-même. Parlons de Jésus. Qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi il est venu. C'est ça qui fait que notre témoignage est important. Notre témoignage est grand, c'est parce que nous parlons de celui qui est la vie, celui qui est la parole et celui qui est la lumière. Deuxièmement, nous voyons que cette lumière est venue éclairer toute l'humanité. Elle est pour toute l'humanité. Voilà ce qu'il dit les versets, je les reprends. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Une lumière, une vraie lumière. La lumière dont l'humanité a vraiment besoin. Nous savons que l'humanité recherche. Si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu préfères être dans la lumière ou dans les ténèbres? En général, ils vont vous dire quoi? Bon, la lumière quand même. Donc voilà, et on espère marcher dans la lumière. Et même j'ai entendu des non-chrétiens qui disent, je cherche la lumière, n'est-ce pas? Que ce soit, il y a des religions aussi, des méditations transcendantales, etc. Ou voilà, on cherche la lumière, le guide spirituel ou la bonne direction. Ou parfois on va s'appuyer aussi sur des hommes, des gourous, pour qu'ils puissent nous éclairer, donner le bon chemin face à ce monde qui est un petit peu perdu. On ne sait pas vraiment où avancer. À quel saint se vouer? On voit la France, hein, même là actuellement avec la guerre en Ukraine, ils ne savent pas quel jeu jouer, hein, vous avez vu? Alors avec les États-Unis, contre les États-Unis, en collaboration, à la diversité, avec l'Europe, contre l'Europe. Pareil pour l'Angleterre, hein, avec l'Europe, sans l'Europe, le Brexit, je ne sais pas s'ils le regrettent, mais je pense que voilà, il y a des bonnes crises et tout. Donc on cherche toujours un petit peu se positionner dans ce monde, vers quel saint se vouer, vers quelle autorité se donner. Certains, c'est l'argent aussi, hein, leur lumière. Hein. Quand tu augmentes la paye de quelqu'un, et puis certains, tu vois que la lumière rayonne dans leur visage. « Ouais, j'ai été augmenté, très heureux et tout. » Où est notre lumière? Qu'est-ce qui va éclairer notre âme? Qu'est-ce qui va éclairer notre vie? Jésus est la vraie lumière. Et cette lumière est venue dans le monde. Elle est venue dans le monde. Elle n'a pas laissé le monde orphelin. Elle n'a pas laissé le monde dans les ténèbres. Elle n'a pas laissé le monde juste tâtonner. Et Paul lui-même dira, voilà, vous tâtonnez, l'homme cherche et tâtonne. Mais Jésus est venu apporter cette vraie lumière qui va éclairer tout être humain, qui peut éclairer tout être humain. Et ça, c'est un point important que nous devons nous rappeler, c'est que tout le monde a besoin de la lumière de Jésus-Christ. C'est une réalité absolue. Parfois, lorsque nous avançons dans notre vie, nous pouvons oublier que notre patron a besoin aussi de la lumière de Jésus. Je regardais mon chef, je me rappelle, quand j'étais dans le monde séculier, voilà, lui, il gagnait un salaire à 6 chiffres. Et pas que 100 000, quoi, plus. Voilà, donc tu te dis, bah, il est bien le gars, hein, tu vois, il a plus besoin de rien, quoi. Il a, vous savez, bah, si, tant qu'il n'a pas Jésus, il est dans les ténèbres. Il a besoin. Je me rappelle de cet ami qui avait eu des grands problèmes difficiles, même psychologiques dans sa vie. Et à cause de tout ça, il a pas pu vraiment réussir dans sa carrière professionnelle. Et ça avait été très compliqué pour lui. Mais il avait rencontré Jésus. Il avait rencontré Jésus, il avait eu cette joie. Mais quand il regardait son frère, qui lui avait réussi, qui n'était pas chrétien, mais il avait réussi, il était pharmacien, tu voyais qu'il avait ce complexe. Il se disait, mon frère, il est pharmacien quand même. Moi, j'ai pas vraiment réussi, petits emplois et tout. Et je lui dis, mais toi, t'as Jésus quand même. C'est pas rien. Ton frère, il est encore dans les ténèbres. Parfois, notre monde peut nous faire oublier qu'il y a des vraies ténèbres. Parce que le monde veut nous faire croire que la lumière, c'est autre chose. Que la vraie lumière, c'est autre chose. Mais non, la vraie lumière, c'est en Jésus-Christ. Je vous rappelle ce que, lors de l'année dernière, pendant l'Avent, vous aviez fait Ésaïe, et vous aviez lu, et vous m'aviez demandé de prêcher sur la lumière et les ténèbres, justement, en Ésaïe, chapitre 8. Et je vous relis le texte, parce qu'il était vraiment interpellant, et il connecte aussi avec ce qu'on lit aujourd'hui. C'est en Ésaïe, chapitre 8, verset 23. « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine, la mer située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population légère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière a brillé. » Et ce texte-là, d'Ésaïe 8 et 9, en fait, on va le retrouver en Matthieu chapitre 4, quand Jésus va commencer son ministère public dans la région de Galilée. On va comprendre que tout ce peuple qui marchait dans les ténèbres, lorsque Jésus est venu, les ténèbres ont disparu lorsqu'ils ont accepté Jésus. Une grande lumière. Eh bien, j'aimerais que nous puissions nous rappeler, les amis, que Jésus est là pour toute l'humanité. Mais si elle est venue éclairer les hommes qui nous entourent, il faut se rappeler qu'avant que la lumière les éclaire, c'est qu'ils sont dans les ténèbres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le chemin qu'ils doivent prendre. C'est-à-dire qu'ils sont aveuglés. Et la parole de Dieu va nous parler de l'aveuglement du péché, de l'aveuglement de la haine, de l'aveuglement de la rébellion avec Dieu. Tout homme et toute femme dans ce monde a besoin de la lumière. Et en cette période de Noël, on va avoir cette frénésie des cadeaux. Rappelons-nous que nous voulons voir beaucoup d'hommes et de femmes venir à Jésus. Rappelons-nous que nous voulons voir toujours plus d'hommes et de femmes entendre ce témoignage. Encourageons-nous à prier pour nos amis, nos collègues, nos proches. Encourageons-nous à croire que oui, encore aujourd'hui, Dieu peut et veut sauver. On a eu le centre évangélique la semaine dernière et j'ai rencontré un certain Karim que je connaissais déjà et vient d'une ville en Algérie, en Kabylie, qui s'appelle Béjaïa. Et il m'a dit, on est 3 convertis de ce village. On est 2 Karim et 1 Belkacem, que vous connaissez. Et il me dit, on est tous dans le ministère. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je vois là? Quand on voit par exemple le monde musulman, on se dit, oh là là, ça, ce monde-là, c'est pas pour nous, n'est-ce pas? Quand on voit un musulman, bah oui, il est musulman, etc. Bah, on peut pas le toucher avec l'évangile, il a déjà sa... Non! Regardez Belkacem, regardez Karim numéro 1 et Karim numéro 2. Non seulement ils ont été touchés par la lumière, ils sont devenus eux-mêmes des hommes qui amènent d'autres à Christ. Donc ne voyez jamais personne dans votre entourage comme quelqu'un qui ne peut pas être éclairé par Jésus, d'accord ? Que ce soit le bouddhisme, des gens qui sont pleinement ancrés dans le bouddhisme, des gens qui se disent absolument athées. Je suis allé voir une personne la semaine dernière qui était en phase terminale. Elle était vraiment dans son lit de mort, c'était soins palliatifs, il n'y avait plus d'espoir. Et j'entends parler de lui, et sa femme dit, oh là là, bah, puisqu'elle va parler avec son collègue, elle dit, ah bah, sa collègue est en fait de notre église. Elle dit, mais est-ce que voilà, votre pasteur, il fait des cérémonies religieuses, parce que voilà, nous, l'église catholique, on se connecte pas, mais peut-être les protestants, si vous pouvez faire une cérémonie religieuse quand ce monsieur va décéder. Je dis, bah oui, alors j'étais un peu étonné qu'ils veulent faire préparer cette cérémonie religieuse pour le décès. Je dis, mais le plus important, c'est pas juste qu'il fasse une cérémonie religieuse dans une église évangélique. C'est que cet homme, il entend de l'évangile. Alors la fille qui était dans notre église a dit, ouais, mais il est vraiment athée et tout. Et je me dis, mais est-ce qu'une personne qui se dit athée ne peut pas changer? Et donc, je vais le voir et je me dis, Seigneur, mais vas-y, quoi. Fais quelque chose. Je savais donc que je vais aller rencontrer un athée. Je dis, je suis venu vous voir juste parce que voilà, j'ai entendu votre histoire, ça m'a touché, vous êtes en phase terminale, etc. Et je lui dis, est-ce que vous êtes croyant? Et là, il me dit, pas encore. Je dis, ah bon. Je dis, bah, ça m'intéresse, ça veut dire que vous êtes ouvert à devenir croyant. Et là, il me dit, tout à fait. Tout à fait. Je fais, waouh. Et donc, j'ai pu prier avec lui, j'ai pu lui lire des psaumes, j'ai pu lui partager l'évangile. À la fin, il me dit, votre foi me fait du bien. Et j'ai pu vraiment l'encourager à servir Dieu. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai vu un homme qui au début se disait complètement athée et qui avait commencé à ouvrir son cœur. Alors à une semaine de la mort, est-ce que tout ça jouait évidemment? Mais je me dis, j'ai fait ma part en présentant l'évangile à cet homme parce que j'ai appris sa mort avant-hier. Avant-hier, il est décédé. J'espère que cet homme a entendu. Mais j'ai fait ma part en venant, en ouvrant l'évangile avec lui. Et je nous encourage à ne voir jamais personne. Quelqu'un se présente athée, vous savez que quelqu'un peut changer. Quelqu'un se présente bouddhiste, musulman, et ceci et cela, vous voyez quelqu'un qui n'a pas encore la lumière. Et parfois, c'est juste parce que les personnes, on ne leur a pas encore bien expliqué la lumière qu'ils ne connaissent, qu'ils n'ont pas encore acceptée. Mais une fois qu'on a présenté la lumière, oui, Jésus lui-même l'a vécu. Malheureusement, certains rejette la lumière. Et c'est ce que les versets suivants nous disent. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Et ça, c'est vrai que c'est un constat terrible que la parole de Dieu fait sur beaucoup de populations où Jésus-Christ lui-même est venu. Un constat terrible que, oui, certains, même la lumière parfaite, magnifique, belle, ils vont la rejeter. Que même Jésus lui-même va être rejeté. Et donc que nous aussi, on peut être rejetés. Et alors, voilà le verdict que Jésus va donner sur dans l'évangile de Jean, qu'on va retrouver en Jean chapitre 3, sur pourquoi certains ont rejeté la lumière. Regardez verset 19 du chapitre 3. Voilà quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Oui, c'est vrai. Que la particularité de la lumière de Jésus-Christ, c'est qu'il expose ce qui est bien et mal. Notre monde aujourd'hui, il appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui deviennent mal alors qu'elles étaient bien avant et qui deviennent bien alors qu'elles étaient mal avant. Les lois elles-mêmes changent et sont forgées pour qu'on puisse dire, non, t'as plus le droit de dire ce que la Bible dit. Ça, c'est plus mal. Et Jean, notre témoin, il va en payer les conséquences, parce qu'il va dire à un homme, t'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, et puis cette femme va pas être contente, et elle va vouloir faire tuer Jean. Mais aujourd'hui, c'est vrai dans beaucoup de situations. Aujourd'hui, on accueille beaucoup de gens de l'extérieur dans notre Église. Beaucoup de personnes, et on se réjouit beaucoup de toutes ces personnes qui se convertissent à des âges avancés parfois, et on les accompagne, et certains se convertissent, on se réjouit. Et j'aimerais vous dire que peut-être 7 cas sur 10, les gens sont en concubinage, ou avec des enfants hors mariage. Au moins 70%, voire 80%. Et il faut refaire toute leur éducation pour certains. Faire comprendre qu'en fait, non, il ne faut pas faire la charrue avant les bœufs. Tu fais pas des enfants avant le mariage. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon? Et il y a très, très nombreux, beaucoup de mes bons copains sont dans cette dynamique. Ruben, j'ai trouvé une copine, on habite ensemble et là, on va faire un enfant. Oui, mais quand est-ce que tu te maries avec elle? On verra plus tard, peut-être. Donc tout ça, c'est des choses qui sont complètement réévaluées. Et ça, c'est pas le pire, n'est-ce pas? Où on met dans la loi que maintenant, on peut effacer homme-femme. Voilà, ça va s'installer tranquillement. Que t'as plus le droit de remettre en cause la sexualité d'une personne. Alors, ouais, vous avez accouché, la femme a accouché. Alors, c'est un garçon ou une fille? Ben, il choisira. Mais non, attends. La parole de Dieu nous dit des choses. Quand on arrive avec la parole de Dieu, on expose le bien et le mal. Et même dans notre vie, les amis, n'est-ce pas? J'ai plusieurs fois été repris par des amis, par des proches, par des frères et sœurs bienveillants qui me rappelaient des choses que je faisais qui n'étaient pas toujours justes. Et ma première attitude en général, c'est quoi? C'est quoi? Merci mon frère que tu es spirituel, je reçois cette critique que tu me donnes. C'est pour qui il se prend lui? Ben non, et puis ou me défendre. Mais la lumière veut nous faire du bien. Et c'est pour ça qu'elle nous encourage à l'humilité, d'accepter la correction. Parce que se cacher de la lumière, ne pas accepter la lumière, c'est rester dans les ténèbres. C'est rester dans les ténèbres. Acceptons quand la parole de Dieu expose nos erreurs. Acceptons qu'en fait, elle veut notre bien. Jacques dira, celui qui regarde la parole de Dieu, qui la lit et qui ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui s'est regardé dans le miroir, qui voit son visage et qui part et qui oublie. Imaginez, avant de venir ici, je regarde et je vois que j'ai une grosse tache de Nutella ici. Et je la vois, je fais ok, puis après je viens ici. Ou que je ne vois pas que ma chemise est vraiment déchirée. Et là, il y a un frère qui me voit et elle voit que la chemise est déchirée. Il fait, ah, j'ose pas lui dire. Et j'arrive et j'ai ma chemise déchirée. Juste si quelqu'un peut me dire et que la personne puisse prendre en compte, eh bien ça donne un salut pour lui. Et là, je donne juste cet exemple trivial, mais bien évidemment que parfois c'est bien plus grave. Des situations bien plus profondes qui nous conservent dans les ténèbres parce qu'on ne veut pas se remettre en cause. Et c'est pour ça, les amis, que la lumière est rejetée, parce que l'humanité a du mal à se remettre en cause. Parce que la lumière expose aussi les ténèbres. Et alors la bonne nouvelle, les amis, c'est que lorsqu'on accepte cette remise en cause, lorsqu'on accepte qui est Jésus, lorsqu'on accepte qu'il est venu mourir pour nos péchés, et qu'on est prêt à dire « oui, je sais, j'ai péché, et je te demande pardon pour ces fautes », regardez la conclusion, regardez ce qui se passe à celles et ceux qui accueillent cette lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Voilà, les amis, ce que fait cette lumière. Elle transforme toute la nature de la personne. Voilà ce que fait cette lumière. Vous prenez une personne qui était dans les ténèbres, qui était dictée par ses passions, dans l'égoïsme, dans la méchanceté, rebelle à Dieu. Si cette personne, en rencontrant le message de l'Éternel, en entendant parler de l'Évangile qui sauve, de Jésus-Christ qui est venu pour porter ses péchés, si elle reconnaît et dit « oui, je veux croire à ce message, je veux accepter ce qu'il m'est dit, je veux changer et demander pardon », eh bien, une transformation totale s'opère en elle. Et la parole de Dieu n'est pas en reste pour décrire la puissance d'une conversion. Très souvent, quand on va parler dans notre société d'une conversion, il était musulman, il est devenu catholique. Donc il s'est fait baptiser, puis avant il allait à la mosquée, maintenant il va à l'église. Ou il est devenu athée, il ne va plus à l'église maintenant, etc. Et on a l'impression que c'est juste un changement d'action. Voilà. Et peut-être de conviction. Action et conviction. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, elle parle de la nature même d'une personne. Elle parle de ce qu'une personne est complètement. Et une comptine qu'on avait racontée quand on était petit, que je n'avais pas compris au début, maintenant j'ai compris. Ça vous arrive aussi, non? On vous raconte des histoires et vous ne comprenez pas. Les fables de La Fontaine, bon. Et à la fin, tu dis, ah ouais, en fait, il était intelligent, ce gars-là. C'est l'histoire d'une chèvre qui voyait les lions et qui disait, waouh, j'aimerais être comme un lion. Et il y a son ami, le chimpanzé, qui lui dit, je vais t'aider, je vais te coacher, tu vas devenir un lion. Ah, super. Alors déjà, le lion, il marche avec prestance, mademoiselle la chèvre. Ah bon? Ouais. Tac. Ok, super. Donc, marche, allez plus fort, etc. Donc, on voit la chèvre qui travaille la prestance. Super. Alors maintenant, ton bais, il faut que tu le changes. Ah, donc, il faut que tu apprennes à rugir comme un lion. Donc, au début, c'est difficile. Et puis après, il commence à bien rugir. Ouais, très fort. Et puis, les lions, ils mangent de la viande. Ah bon? Ah non, pas de la viande quand même. Ah si, tu veux être un lion, tu manges de la viande. Hein. Et donc, il se met à manger de la viande. Voilà. Et alors, t'as ton physique quand même, il ressemble pas à un lion. On va trouver une solution. Tiens, on va te mettre une pancarte lion dessus. Voilà, comme ça, ça va. Donc, on voit la chèvre, elle marche comme ça, elle rugit, et elle mange de la viande, et on met lion. Alors franchement, c'est un lion, c'est sûr. Et puis après, maintenant, ça y est, t'es un lion. Je te propose d'aller habiter avec les lions maintenant. La chèvre, elle va avec les lions, avec « waouh », etc. Et puis après, à la fin de l'histoire, on voit quoi? On voit les lions qui sont là, et puis ils ont dans leur bouche une pancarte marquée « lion ». En fait, la chèvre, elle a fini dans le ventre des lions. Au début, j'avais pas compris l'histoire. Je dis « mais elle est triste, cette histoire ». Et en fait, il disait « en fait, tu peux pas devenir chrétien juste en changeant ton extérieur. Tu peux pas devenir chrétien juste en changeant ta façon de faire. C'est une transformation totale que toi-même, tu ne peux pas opérer. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va venir en toi. C'est la nouvelle naissance. C'est une nouvelle création que Dieu va faire. Voilà ce qu'est devenir chrétien. Par la foi en la lumière. Par la foi en cette lumière. Et donc, quand on parle, les amis, qu'on est chrétien, c'est pas juste, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai trouvé que c'était pas mal. Mes parents, ils étaient gentils. Et j'ai dit, ouais, je préfère aller à l'église qu'à la mosquée. Ou le dimanche, chez nous, c'est le dimanche après-midi, donc je peux aller à l'église, le matin, je dors. Non, c'est plus que ça, c'est je rencontre la lumière. Je suis transformé par la lumière, je suis touché par la lumière. Je crois en cette lumière, j'en fais ma principale raison d'être et de vivre. On l'a dit, Christ seul me suffit. C'est lui désormais que je veux croire, c'est lui que je veux vivre, c'est lui que je veux suivre. Et lui, il dit oui, et tu nais de nouveau. Et Jésus dira, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu tant que tu n'es pas né de nouveau. Il n'y a aucune possibilité de rentrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Une chose opérée ni par la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, ni la nature, mais née de Dieu lui-même. Et ça, les amis, quel encouragement, n'est-ce pas? Quel encouragement lorsqu'on va tomber. Lorsqu'on va se décourager dans notre marche chrétienne, lorsqu'on va parfois se dire, mais vraiment, est-ce que vraiment j'ai choisi Jésus? L'encouragement que je vous donne, si t'as choisi Jésus, mais t'en fais pas, parce que c'est Jésus qui t'a choisi, en fait. C'est lui qui te tient dans sa main. C'est lui qui te soutient. C'est pas parce que tu te décourages pendant une semaine, deux semaines, trois mois, que c'est fini pour toi. Il y a ce jeune homme qui a vécu des moments très difficiles, qui a perdu son père très tôt, qui a été abusé moralement et harcelé dans sa jeunesse, qui s'est converti. Et ça a été très compliqué pour lui. Et il faisait des allers-retours. Il fait des allers-retours encore aujourd'hui. Et parfois, il m'envoyait des moments, et c'était vraiment des problèmes profonds psychologiques, il m'envoyait des moments où il me disait « Ouais, je vais me suicider et tout. » Et au début, j'étais vraiment paniqué. Et à un moment, je me suis dit « Mais si c'est Dieu qui l'a choisi, si Dieu vit vraiment en lui, Dieu va le ramener. » Et j'ai arrêté de stresser. Et écoutez, Dieu le ramène à chaque fois. À chaque fois, Dieu le ramène. Il s'éloigne. Parfois, il s'éloigne longtemps. Mais Dieu le ramène toujours. Il a vécu des moments difficiles, compliqués. Mais il revient toujours à la lumière. Parce qu'il est né non pas de la volonté humaine, non pas de la volonté d'un mari, non pas de la nature, mais il est né de Dieu. Et c'est un encouragement pour nous aussi, qui parfois pourront être découragés à cause de ce que nous vivons. Lorsque vous êtes en Jésus, lorsque vous êtes auprès de la lumière, c'est lui qui vous a fait naître. C'est lui qui a mis en vous cet esprit, qui fait de vous ses enfants. Et vous avez ce statut, non pas à cause de vos bonnes actions, un statut merveilleux. Vous imaginez être enfant de Dieu ? À Madagascar, j'ai des amis qui sont très contents d'avoir le même nom de famille qu'un ministre ou un président. Vous savez. Ah ouais, moi aussi, je m'appelle comme lui. Hein. Je crois qu'on est liés. Alors, son cousin et mon cousin, peut-être qu'ils étaient... Mais toi, tu as le nom de Dieu gravé sur toi. C'est pas merveilleux, ça ? Toi, tu fais partie de la famille divine royale. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et comprendre qui nous sommes détermine énormément comment nous allons agir. Comme cette chèvre. Elle n'avait pas compris qu'elle était chèvre. Elle devait rester chèvre, en fait. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu es de la lignée royale ou divine, comment tu te comportes ? Crois que tu es finalement aussi habité de la lumière de Christ et que tu peux être ce témoin. Où que vous soyez, les amis, n'oubliez pas que vous êtes enfants de Dieu et que par votre présence même, les choses peuvent changer. Ouais, mais Ruben, tu sais pas, moi, dans mon travail, c'est des gens tous particuliers, moi je suis plus timide. Oui, mais qu'est-ce qui vit en toi ? N'est-ce pas la puissance de Dieu lui-même ? Alors crois que tout le monde peut être touché par le témoignage de Jésus-Christ. Et en cette période de Noël, les amis, voilà un encouragement avec cette partie du prologue, la deuxième partie. Jésus-Christ est vraiment la lumière qui va éclairer le monde. Et vous et moi, nous pouvons être ses témoins. Et nous voulons rester à sa lumière en rejetant le péché et en étant aussi ses témoins qui parlons simplement de Jésus-Christ avec notre fragilité, mais aussi avec assurance. Je vais prier. Notre Dieu, notre roi, merci encore pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ce privilège de pouvoir être éclairé de ta lumière. Et ce matin encore, je te prie que celles et ceux qui ont besoin à nouveau de revenir à la lumière puissent recevoir ta lumière. Celles et ceux qui ont besoin de recevoir la vérité de Christ puissent le recevoir. Toi qui as donné ta vie pour que chacune et chacun puisse recevoir la vie. Je te demande encore de purifier nos cœurs, de nous aider à rester attachés à toi. Et je te prie aussi que ta lumière non seulement brille dans nos cœurs, mais brille encore dans les ténèbres, autour de nous, que nous soyons ses témoins. Et merci parce que ce n'est pas nous qui allons décider que quelqu'un va devenir chrétien ou pas, ou que quelqu'un va rester pas chrétien. Mais tu nous appelles juste à témoigner de toi, et c'est toi qui t'occupes du reste. Aide-nous à être ses témoins fidèles de Jésus-Christ pendant toute cette période de Noël, où beaucoup de gens ont besoin de toi. Et merci parce que cela est possible par ton œuvre, parce que tu es la lumière qui éclaire l'humanité. Au nom de Jésus. Amen.